Un walk-in. Disons que ça a commencé à plus me fasciner et m'intéresser quand j'ai vu le Bureau des légendes, je pense comme pas mal de monde. Et je trouve que c'est une série qui est hyper bien faite et qui donne, semble donner pas mal d'infos sur la manière dont ce milieu fonctionne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un Zoom Zoom Zen un peu spécial. Et oui, Mathieu Noël reçoit en ce moment l'extrême onction. On est presque en train de se débarrasser de lui, alors on en profite.
Et oui, notre boomer grisonnant préféré est malade. Le dry January, manifestement, ça lui a pas réussi. C'est pour ça que je l'ai arrêté moi-même, mais ne vous inquiétez pas.
Non, Zoom Zoom Zen ne change pas. Les vrais piliers de cette émission ont simplement pris les rênes, avec au casting Manon Mariani et Kaëlla Marianoche, qui va jouer l'elfe, le seul personnage féminin qui a la parole dans la saga du Seigneur des Anneaux.
Ouais.
Cyril Lacarrière, qui malgré sa taille tout à fait honorable, ressemble quand même beaucoup avec sa barbe au Seigneur Nain, Gimli. Quant à moi, je vais prendre le rôle de Frodon, mais un Frodon qui aurait enfin vaincu Saruman, ce mage blanc qui, du haut de sa tour d'Hortanque du 10e arrondissement de Paris, nous guette l'œil vitreux avec ses 40 degrés.
Ouais, c'est beaucoup.
La fièvre monte toujours. Vous pouvez me croire, c'est moi qui me charge de la prendre.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va plaire à l'ancien agent du FBI, Cyril Lacarrière, puisqu'on va s'infiltrer dans les coulisses du renseignement français. L'occasion d'en savoir plus sur cette mystérieuse DGSE. Est-ce que vous saviez que l'on pouvait offrir volontairement ses services à une agence de renseignement? Eh ben oui, vous pouvez être ce qu'on appelle un agent walk-in. Pour ça, il faut évidemment avoir des informations intéressantes à leur vendre ou être une personne à un poste bien placé, rédacteur en chef ou micro-trotteur de Zoom Zoom Zoom, évidemment. Ça ne suffit pas, les gars. Le walk-in, c'est donc le terme sur lequel on va zoomer aujourd'hui.
Zoom Zoom Zen, version libérée du Suisse. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Ah bah non.
Il n'est pas là, lui.
Fallait changer le jingle, hein.
Ils n'ont pas changé le jingle.
On veut des jingles.
C'était un peu long, trois noms.
Bonjour, Olivier Mas.
Bonjour.
Vous êtes un ancien agent de la DGSE, les services secrets français, expert de la clandestinité. Vous avez travaillé 3 ans dans le fameux Bureau des légendes. J'ai plein de questions, j'adore la série. Vous avez servi dans les missions les plus sensibles au Moyen-Orient et dans le Sahel. Aujourd'hui, au grand jour, vous partagez votre expérience à vos 174 000 abonnés, pas mal, hein, de votre chaîne YouTube Talks with a Spy.
Olivier Mas, on vous a vu aussi dernièrement dans le rôle d'un des loups, dans le jeu Loup-garou de Canal+. Vous avez également sorti en octobre votre premier roman, Le Walk-in, aux éditions Flammarion. Vous allez justement nous expliquer pendant une heure ce qu'est ce walk-in et revenir sur votre parcours aussi d'ex-agent de la DGSE.
Et les autres rendez-vous de Zoom Zoom Zen, ils sont toujours là. 17h30, un Zoom Zoom test, pas de Mathieu Noël, mais un Pierre Courade pour le remplacer. Ah. Et c'est lui qui va venir nous faire jouer avec le monde merveilleux des espions. En fin d'émission, Ahmed Sparrow revient de ses congés. Ça fait un mois qu'on ne l'avait pas vu. Il paraît qu'il a postulé pour la version américaine du Bureau des légendes, on verra, il nous dira. Et puis Manon, si l'espionnage vous intéresse, vous nous direz justement qui il faut suivre pour en savoir un peu plus sur le sujet.
Et ben, un personnage de fiction que vous devez bien connaître, Olivier Mas, il s'appelle Malotru, c'est la star du Bureau des légendes, la série de Canal+, pour moi l'une des meilleures séries françaises.
Et Quentin, aujourd'hui vous êtes partout, co-présentateur de cette émission.
Souvent partout,
et toujours le plus habile des micro-trotteurs. Alors, est-ce que le walk-in, ça a pris dans la street?
La street, disons la rue. Cyril, et pas n'importe laquelle, la rue Ballard, qui mène jusqu'au ministère des Armées à Paris, je me suis dit peut-être que, par hasard, je vais tomber sur un agent double. Je vous spoil, ça n'est jamais arrivé. Heureusement, tel le chat, je retombe toujours sur mes pattes. Enfin, à peu près, vous l'entendrez dans ce micro-trottoir, complètement à la rue.
Mais d'abord, Olivier Mas, qu'on soit transparent dès le début de cette émission, surtout quand on reçoit quelqu'un qui a eu une double vie pendant des années. Olivier Mas, c'est vraiment votre vrai nom ou c'est une couverture?
C'est ça, c'est ma double vie continue, même après la fin de mon service actif. Donc Olivier Mas, non, c'est un pseudonyme, ce n'est pas mon vrai nom, et c'est peut-être aussi ma dernière ligne de défense, pour pas qu'on me retrouve aussi facilement. Donc voilà, il faut chercher un peu plus pour savoir qui je suis exactement, où est-ce que j'habite. Voilà, donc
vous avez encore des papiers à ce nom-là, Olivier Mas?
Non, Olivier Mas, c'est mon pseudonyme d'auteur, et je n'ai jamais utilisé ce nom-là en opération. Mon nom d'opération sous légende, je ne vous dis pas. Alors il s'agit d'eux, non. Donc Olivier Mas, c'est un pseudonyme qui n'a rien à voir avec le service.
Lui, il est grand, il est fort, il a bientôt 50 ans, et dans sa longue vie, il fut aussi un agent du FBI. Il a d'ailleurs versé une petite larme pendant la cérémonie d'investiture de Trump en voyant cette image Clinton-Bush-Obama. Il a d'ailleurs joué de la flûte tout le long de la cérémonie. Les trois présidents étaient côte à côte, il les a peut-être servis pendant de nombreuses années. Pourtant, je doute qu'il ait franchement réussi dans sa carrière à avoir une double identité, tant il est peu discret, surtout lorsqu'il éternue. Alors, pour nous remettre en tête les fondements de notre notion du jour, je suis fier de le dire haut et fort. Cyril, un walk-in, d'où ça sort ?
Alors, c'est du jargon, notre truc d'aujourd'hui. En bon français, on parle de transfuge volontaire. Et c'est au moment de la guerre froide que ce terme a émergé. Forcément, à l'époque, les deux camps cherchaient des infos sur les ennemis d'en face, des infos fiables, et donc des infos qui se monnayaient rubis sur l'ongle. L'Est et l'Ouest avaient leurs espions, l'un et l'autre cherchaient aussi à retourner les espions du camp adverse pour en faire ce qu'on appelle des agents doubles. Et puis, il y avait des informateurs spontanés, ceux qui venaient voir les services de renseignement en disant « j'ai des infos, mais il faut me payer ». Comment on les appelait ? Les walk-in. Alors évidemment, c'était pas le premier Pékin venu qui était intéressant, il fallait que ce soit un peu du haut gradé, du chef d'entreprise, un scientifique de premier plan éventuellement, du haut placé dans la nomenclatura, voire même un espion.
Et qu'est-ce qui les motivait, ces transfuges volontaires ?
Eh bien, j'ai parlé d'argent, mais ça pouvait aussi être une vengeance personnelle ou même un choix idéologique. Car oui, les Russes pouvaient en avoir marre du stalinisme et les Américains ras la casquette du capitalisme. Pas sûr néanmoins que ce qu'ils aient trouvé dans le camp d'en face soit plus intéressant, mais c'est une autre histoire. Là où ces personnes qui passent à l'acte se sont font du walk-in, sont intéressantes dans l'histoire, c'est qu'elles ont souvent dans leur bagage des infos stratégiques majeures, de quoi inquiéter leur pays d'origine ou leur employeur. Car ces transfuges volontaires ne font pas que de la politique, ils agissent aussi dans le milieu des affaires. Et c'est ce qui explique que, par exemple, les géants de la tech soient des boîtes hyper cloisonnées où très peu de gens connaissent vraiment un projet dans sa globalité. Alors, est-ce qu'un transfuge volontaire a déjà changé le cours de l'histoire ? Est-ce qu'un walk-in, c'est aussi un traître ? Est-ce qu'une fois qu'on a fait cette démarche, on peut rester dans son camp d'origine ? Est-ce que Quentin, lui, livre encore des secrets à France Bleu ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure. Ici, ouais.
Olivier Mas, comme vient de nous l'expliquer Cyril, le terme walk-in émerge pendant la guerre froide. Mais est-ce que ce phénomène commence avec la guerre froide ou ça a toujours un peu existé dans l'histoire de l'espionnage ?
Oui, ça a toujours un petit peu existé. Alors c'est vrai que au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est les Britanniques qui sont à la baguette et tous les services occidentaux tels qu'on les connaît aujourd'hui ont été formés par les Britanniques à cette époque. Quoi. L'OSS et CIA maintenant, le SDEC à l'époque et DGSE maintenant, pareil. Donc c'est pour ça qu'un petit peu qu'on a retenu ce terme anglicisme qui est vraiment un jargon de l'espionnage en renseignement qui est utilisé quels que soient les services d'appartenance. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer Judas était un walk-in finalement. C'est le premier.
C'est le premier. C'est un bon nom de code.
Ouais, c'est un bon nom de code d'espion. Et donc, c'est ça. Le walk-in, il fait un pas en avant, walk-in, et il vient se présenter spontanément pour donner du renseignement. Donc, Judas, peut-être, Talleyrand, plus tard aussi, qui a été retourné plusieurs fois sa veste. Donc, le walk-in, c'est une notion récente, comme vous l'avez dit, surtout dans guerre froide, mais le phénomène existe depuis plus longtemps, bien sûr.
Et justement, est-ce qu'on sait combien de personnes ont volontairement apporté des informations à l'autre camp pendant la guerre froide ?
Oh, il y en a. Il y a un livre qui est sorti aussi en même temps, un mois avant que le mien, Walk-ins, avec les, au pluriel. Moi, c'est le Walk-in, c'est un roman.
C'est un roman, oui.
Et donc là, il a répertorié une quarantaine, par exemple, de Walk-in. Mais il y a pour un service intérieur comme la DGSI, eux, ils voient le Walk-in comme quelqu'un qui est forcément un agent des services adverses et qui trahit son service. Et donc, ce sont des transfuges uniquement. Pour la DGSE, les services extérieurs dont j'ai fait partie, c'est différent. C'est chaque volontaire, quel qu'il soit, quelqu'un qui est proche d'un réseau terroriste, proche de mafieux, proche d'un président qui veut donner le renseignement, s'il fait cette démarche volontaire, nous, on lui donne l'étiquette, toi, t'es un walk-in.
Est-ce qu'on a des exemples concrets d'informations données qui ont pu faire basculer les choses, en tout cas qui ont changé significativement le cours de la guerre entre l'Est et l'Ouest ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a Oleg Penkovsky, par exemple, qui était un colonel pendant la crise de Cuba, un colonel du GRU, un des services militaires russes, qui lui avait fait défection, était un walk-in, et il a donné un renseignement extraordinaire qui a permis d'avoir un temps d'avance aux Américains pour éviter et dégonfler cette crise incroyable. Donc là, on est au top niveau des décisions politiques et stratégiques.
France Inter.
Et on zoome aujourd'hui sur le walk-in, ou en bon français, transfuge volontaire, ces personnes qui livrent des informations sur leur propre pays au camp adverse. Avec nous pour décrypter ce phénomène, l'ex-agent de la DGSE, Olivier Mas. Olivier, on a beaucoup parlé de l'étranger, est-ce qu'on se focalise un peu sur la France ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe beaucoup chez nous ?
Bien sûr, on a beaucoup de sources humaines dans notre cheptel, on appelle ça le cheptel, hein, dans le jargon d'espionnage.
C'est un langage animalier comme ça.
C'est un peu animalier. Et donc, on a, à l'heure actuelle, il y a plusieurs centaines de sources, et parmi elles, il y a des walk-in. Et il y a parfois, les meilleures sources, parfois, sont souvent des walk-in. Parce que ils sont venus à nous, et ils étaient au cœur du renseignement. Et donc, du coup, ce qu'ils transmettent est parfois extraordinaire. Et dans l'histoire, on a eu de la guerre froide, on a eu l'affaire Farwell avec le colonel Vladimir Vetrov qui lui était le grand walk-in des années Mitterrand, et alors que les alliés se disaient tiens ça y est la France bascule dans le monde communiste et se rapproche des soviétiques, eh bien le président Mitterrand a pu mettre en avant les renseignements extraordinaires de cette source en disant voilà, il les a partagés au président Reagan, et voilà.
Vous nous racontez un peu cette histoire, qu'est-ce qu'il a apporté, comment il a permis de faire basculer éventuellement des moments de tension.
L'affaire Farwell, lui il voulait pas, il a pris contact volontairement à Moscou, et il voulait pas prendre contact directement avec des espions français parce qu'il disait ça va être trop marquant, je vais être détecté. Donc il est allé voir un scientifique français qui travaillait à l'ambassade, et c'est à travers cette personne-là qu'on a fait les échanges et on a travaillé, et il était au contact du renseignement scientifique, et donc ça a été extraordinaire parce que c'était le seul dans ce milieu-là à ce moment-là, et il a pu nous faire sentir à tout le clan occidental qu'on est en train de gagner la guerre froide, parce que le niveau technique des Russes n'était pas bon, tout d'un coup leur machine, leur programme armement ne marchait pas, ne fonctionnait pas, ils étaient en sur-régime, on les poussait à faire une course essoufflée, et donc voilà, le renseignement qu'il a transmis, cette source Farwell a été assez extraordinaire à ce moment-là.
Vous dites que vous avez une centaine de sources, mais du coup comment ça se passe, vous les fidélisez ?
Ah oui, alors on les fidélise bien sûr, on les forme, on apprend à travailler ensemble, on les polie un petit peu, on fait en sorte qu'ils deviennent meilleurs, on fait en sorte qu'ils prennent pas trop de risques, on met un plan de liaison clandestin. Alors ça dépend, il y en a qui font ça, il y en a qui sont très riches et qui font pas ça pour l'argent, ils font ça pour idéologie. Il y a beaucoup de transfuges soviétiques qui faisaient ça pas pour l'argent. Alors on les défrayait un petit peu, et puis il y a des gens qu'on paye, et puis il y a des gens qu'on paye beaucoup. Par exemple, des responsables de cyber ou des chefs de réseau de cyber, on est prêt à les payer très cher. Des gens qui ont des informations sur des programmes iraniens ou autres, ou nord-coréens, sur des programmes nucléaires.
Ils sont libres de partir quand ils veulent ?
Oui. On est de bonne famille, nous, on est des gentils. Oui, quand même, parce qu'on essaye de faire ça sous forme de volontariat et de partenariat. Alors après, il peut y avoir des petites cachotteries, des mensonges. On va peut-être pas tout leur dire, mais on va faire ce qu'on préfère, c'est la coopération volontaire.
Mais comment on s'assure que ce que vient nous dire la personne est juste ?
Ouais, dans ma très bonne question. C'est on recoupe. Donc c'est-à-dire
comme journaliste quoi.
Comme un journaliste, ouais. Exactement, avec des moyens en plus que le journaliste n'a pas. Donc tu me donnes le numéro de téléphone du colonel Zelensky n'importe quelle autorité, eh bien on va mettre ce téléphone sous écoute, et puis on va voir s'il commande des pizzas ou alors s'il parle de plans de bataille et de réunions qu'il a eues avec le président. Donc voilà, c'est ça, on essaie de recouper ce que nous dit, et on contrôle, et on a toujours un doute raisonnable, qui revient en permanence en boucle pour pouvoir contrôler ce qui nous est transmis.
On parle des motivations, des infos compromettantes pour son pays. Concrètement, quand quelqu'un veut donner des informations au camp adverse, comment il contacte le camp adverse ? On envoie un mail, toc toc, c'est moi, le double agent ?
Oui, alors ça arrive très très souvent dans les ambassades, quand on est à l'extérieur. Donc on est contacté, même à Paris, on est contacté très fréquemment. Et évidemment, on tombe sur des fous, on tombe sur des arnaqueurs qui veulent de l'argent, on tombe sur des déséquilibrés, on tombe sur des faux, des manipulations adverses. Donc dans 95, voire 97% du temps, on perd son temps et donc c'est inutile. Mais en revanche, les 3% qui restent, c'est du pain béni, et ce sont des pépites. Donc du coup, faut prendre le temps de...
Il faut tout vérifier. On peut rien laisser passer.
Non, c'est trop dommage. Ou alors après, il y a des fois, on sent au téléphone, c'est le gendarme ou le policier de l'ambassade qui a un discours complètement incohérent, quelqu'un qui est véritablement fou, ça se voit tout de suite, ça on élimine tout de suite, on perd pas de temps. Mais sinon, les autres, on les essaye, et puis chaque fois, c'est parfois bien fait, c'est bien amené, les gens ont un peu travaillé leur sujet, et donc ça fait vrai, donc c'est compliqué. Parfois, ça prend quelques semaines avant de s'apercevoir que c'était pas bon.
Oui, parce que vous dites quand même que 90% des infos apportées sont de mauvaises sources. Ça fait beaucoup à trier quand même.
Ouais, ça fait beaucoup à trier. Alors on est formé à ça. On voit aussi, vous parliez donc de la manière de contacter les ambassades. Quand c'est une ambassade qui est très surveillée par les services locaux, si la personne ne fait pas attention, n'a pas fait prend un contact par exemple dans une cérémonie ou glisse une enveloppe à quelqu'un de l'ambassade ou passe par une boîte aux lettres morte ou un téléphone, un coup de téléphone, une cabine publique ou d'un téléphone dont on voit que ça remonte à rien parce qu'il a acheté une carte SIM il n'y a pas longtemps, etc. Donc on va voir dans la manière de se présenter du walk-in, déjà on voit s'il est crédible ou non. Est-ce que c'est quelqu'un de formé et donc il a fait attention à ce qu'il fait parce qu'il sait les risques qu'il prend.
Olivier, maintenant direction le terrain. Mm-hmm. Le terrain, c'est le petit mot de Quentin, lui, pour enjoliver un peu son job, mais on lui fait plaisir. Hein. On est de bonne composition. Alors soit il est sur le terrain, et pour ce micro-trottoir, Quentin, parce que vous pensiez être plus malin que les autres, vous êtes rendu aux abords du ministère des Armées.
Qui ne se trouve pas si loin de la maison de la radio. Je suis dans le 15e arrondissement de Paris, face à ce bâtiment un peu futuriste. Ni futuroscope, ni mosaïque de salle de bain. Voilà, ma première rencontre, c'est ce monsieur qui sort du bâtiment. Je sens que notre sujet du jour pourrait bien l'intéresser.
Bonjour. Quel est votre prénom à vous ?
Charles.
Charles, vous avez quel âge ?
60 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je travaille.
Dans quel domaine, on peut le dire ou pas ?
Non.
Vous êtes agent secret ?
Oui.
Ah, d'accord, je pensais pas que ce serait si facile. Pas très discret, ces agents. Hein, Olivier, tu m'étonnes qu'on perde au loup-garou sur Canal. E2 arrive, sac à dos en cuir et mains dans les poches.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous demande vos prénoms ?
Romain.
Mathilde.
Vous avez quel âge ?
22.
23 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
On est étudiants.
En sécurité défense.
Ah, alors eux, ils ont peut-être la réponse à cette question que le monde entier se pose.
C'est quoi un walk-in ?
Je sais. Walk, marcher.
Vous savez pas ce que c'est ?
Non.
Vous êtes en quelle année de défense ?
Master 2. Un walk-in est une personne qui offre volontairement sa collaboration à un service de renseignement. Ah, une taupe !
Oui, c'est une taupe.
Mais on a eu un examen sur ça il y a 2 jours, donc. Sur le renseignement, ouais.
Ah, bah alors, puisque vous avez planché dessus, apprenez-moi quelque chose.
La. Légalisation du renseignement.
Loi de 2015, le renseignement a été légalisé, intégré dans la loi. Avant, il n'y avait pas de loi qui autorisait concrètement les techniques de renseignement. Et donc, l'espionnage, c'est devenu légal.
Ça, c'est depuis les attentats ?
Ouais.
Bon, c'est un peu flou, mais on va y revenir. Lui est tout sourire malgré les 0 degrés qu'affiche son appli météo sur son portable. Il porte un anorak bleu, un énorme sac à dos de randonneur fluo. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Oscar.
Oscar, vous faites quoi dans la vie ?
Je travaille dans une ONG humanitaire. Un walk-in. Est-ce que c'est une action activiste ? On rentre dans un bâtiment pour bloquer ou quelque chose comme ça ?
Non. Un sit-in.
C'est un agent double.
Ok, une taupe.
Ah. Oui.
C'est pour ça le ministère des Armées que vous êtes dans ce coin-là.
C'est marrant, vous avez vu sur Google Maps, quand on essaie de voir au-dessus, c'est flouté.
Ouais. J'ai pas regardé, ouais.
Ah, regardez, si vous mettez... Si vous mettez Maps...
Ah oui, d'accord. En effet, ouais. On sait pas ce qui se passe.
Eh, c'est tout flouté. Il me confie que ce domaine fascine et intrigue. Et justement, pour ces mystères-là, c'est le fait que ce soit flouté. Pareil pour le bâtiment de la DGSE, on est dans le 20e arrondissement, c'est flouté au-dessus. Il y a même des panneaux qui disent interdiction de photographier devant. Je lui parle de vous, Olivier Mas, ex-agent de la DGSE, votre livre, votre page YouTube, votre photo.
Ah, il a fait le loup-garou, non ? C'est ça, l'émission ?
Oh.
Loup-garou. Il a pas gagné.
Est-ce que vous auriez une question à lui poser ou une réflexion, un truc à...
Derrière le fait de servir les intérêts de la France, est-ce qu'il a eu l'impression justement parfois de faire des sacrifices sur ses valeurs ou pas ? Ou est-ce que finalement il a toujours été en accord avec ce qu'il a fait pour ce service-là ?
Olivier Mas, vous y répondrez dans quelques secondes. Mais avant, voici cette jeune femme qui passe devant moi.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Julie.
Julie, vous avez quel âge ?
33.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis journaliste.
Chez qui ?
La maison des maternelles.
Bah oui, parce que curieusement, à côté du ministère des Armées, il y a BFM, RMC et plein de boîtes de prod. Alors, vais-je coller une journaliste de France 5 avec notre mot du jour ?
Un walk-in. Peut-être de la danse. Ouais, ça me fait penser à Moonwalk, mais c'est évidemment pas ça.
Voilà, je lui raconte que, en fait, c'est l'agent walk-in, l'agent double. Est-ce un domaine qui lui parle ?
Disons que ça a commencé à plus me fasciner, m'intéresser quand j'ai vu le Bureau des Légendes, je pense comme pas mal de monde. Et je trouve que c'est une série qui est hyper bien faite et qui donne... Alors, je sais pas si tout est exact, mais qui semble donner pas mal d'infos sur la manière dont ce milieu fonctionne. Je me rappelle pas du nom de l'actrice, c'est Sarah Girardot, je crois. Ce personnage j'aimais bien. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle n'a pas du tout la tête de l'emploi. Son personnage en lui-même m'avait marqué en me disant c'est fou, ça veut dire que je pourrais croiser quelqu'un dans la rue qui a ce tempérament-là, qui dégage cette énergie-là et qui pourtant pourrait avoir cette double vie et ce double métier. Et je trouve ça fou, voilà.
Sarah Giraudeau, pour être exact, qui joue Marina Loiseau, phénomène, puis Rocambole, mon perso préféré de la série. Je lui demande quelle question poser à un ancien agent.
Je sais que par exemple, moi je serais incapable de faire ce métier parce que je serais incapable de séparer à ce point-là ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc j'aurais peut-être envie de lui demander par curiosité comment, ce que ça demande comme effort et quelles ont été les situations. Et c'était le plus compliqué pour lui peut-être de ne pas donner des informations aux proches qui étaient autour de lui, soit pour, je sais pas, les protéger, soit parce que c'était un secret pro et qu'il pouvait pas le faire. Et comment on vit ça quoi, de l'intérieur.
Vous dites tout à vos proches.
Franchement, je dis beaucoup de choses, oui.
Alors, est-ce que c'est facile de faire un walk-in? On a tous un peu rêvé d'être espion, d'avoir nous aussi notre légende. Pour l'instant, ici à Radio France, on n'a pas de légende, mais on a le bureau. Et c'est déjà beau.
Bien déjà.
Belle rime, Quentin. Merci beaucoup. On continue à parler du walk-in, cette pratique méconnue du monde de l'espionnage, avec notre invité du jour, Olivier Mas. Votre ancien métier pose évidemment beaucoup de questions, on l'a entendu. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été difficile avec vos proches ?
Peut-être justement les missions, dans mes premières années, j'ai fait 15 ans au total à DGSE, mais trois premières années, c'était au bureau de légendes. On ne m'appelle pas sur ce nom-là, hein, c'est la série qui a choisi ce nom.
Ça s'appelle comment, pardon ?
Ce petit service, je crois qu'il a changé de nom, donc je peux dire que c'est le service mission du temps où j'y étais.
Service et
donc,
mission.
Voilà.
Donc, ça maintenant, bien.
Ouais. Et donc, c'est un endroit où il n'y a que des clandestins. Donc, des gens qui ont des fausses identités, des faux métiers, des faux papiers, tout est faux, sauf la mission qui est vraie. Donc, quand j'ai fait cette partie-là, c'est vrai que par rapport à la vie de famille, quand j'étais envoyé donc sous fausse identité, je ne pouvais pas téléphoner à mon conjoint et à mon épouse. Et donc du coup, il n'y a aucun contact, zéro contact avec la famille. Et les contacts passent par des messages chiffrés qui sont lus par un autre, par la personne qui déchiffre. Et donc, du coup, on a des messages avec la famille qui ne sont pas très intimes et qui sont un peu barbants.
Mais avant de partir, du coup, c'était quoi l'excuse, la raison du voyage ?
C'est mon autre personnage qui, je crée un personnage de pacotille.
À votre famille?
Alors, à ma famille, j'explique pas quelle est ma légende, mais j'ai dit, je vais partir dans tel pays, dans telle région, et puis ensuite, point, je ne peux pas dire plus.
Mais s'il y a une urgence, comment ils font pour vous joindre?
Oui, alors s'il y a une urgence, justement, il y a ces messages chiffrés, codé. Et ensuite, je vais recevoir l'info. De toute façon, je suis à des milliers de kilomètres, je peux pas prendre l'avion, je suis loin, je suis bardé de billets de banque, parce que dans l'endroit où je suis, je peux pas retirer, j'ai pas de carte bleue, etc. Donc de toute façon, je pourrais pas gérer l'urgence, donc je suis assez inutile. Donc c'est vraiment l'épouse, la famille arrière qui doit gérer toutes les urgences familiales.
Oui, ça prend beaucoup de place. Elle est bien aussi, la question d'Oscar, sur vos valeurs. Est-ce que vous avez fait des sacrifices sur vos valeurs, ou bien finalement, vous avez toujours réussi à être en accord avec vos décisions, vos actes ?
Je pense que c'est l'acteur Malotru qui disait...
Mathieu
Kassovitz, qui disait, j'aurais pu, pourquoi pas, être agent de la DGSE, une fois qu'il a discuté un petit peu avec les uns et les autres, etc. Mais en revanche, pas de la CIA. Et je suis assez d'accord avec lui. Finalement, moi, ce que j'ai vécu en 15 ans, j'ai jamais été en désaccord avec mes valeurs. J'étais toujours prêt à, s'il fallait, si on m'avait donné des ordres que j'aurais pas accepté moralement, j'étais prêt à refuser et à partir, et donc du coup à démissionner, parce que un agent qui commence à plus obéir aux ordres, c'est quand même assez catastrophique. Et donc voilà, mais ce problème-là s'est jamais présenté. Je me suis toujours trouvé raccord avec mes valeurs.
Peut-être revenir sur ces deux étudiants qui découvrent le concept de walk-in et qui me parlent de cette loi du renseignement de 2015. Est-ce qu'elle a changé quelque chose, cette loi, pour vous ?
Non, mais là, on est typiquement face à un truc d'étudiant qui ne connaît pas la réponse à sa question et se raccroche avec ce qu'il sait et nous ressort un truc qui est complètement hors contexte. Et donc, très bien. C'est...
Faut aller bosser, quoi, c'est ce que vous leur dites.
Je pense, j'ai un peu peur sur le résultat de leur examen, si c'était sur le sujet. Mais c'est un autre sujet.
Ah ok, ça n'a rien à voir.
Non.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen jusqu'à 18h. Est-ce que vous connaissez le walk-in ? C'est normal si vous ne connaissez pas, puisque c'est de l'espionnage. Zoom Zoom Zen se penche aujourd'hui sur cette mystérieuse pratique avec notre invité Olivier Mas. Et pour faire le Zoom Zoom Test aujourd'hui, c'est Pierre Courade qui s'en charge. Bonjour Pierre.
Bonjour Cyril, bonjour à tous.
Et c'est vous qui allez nous faire jouer Zoom.
Zoom.
Là on est dans l'univers du Guest Savoir. Je sais, c'est le générique d'un famille en or, mais vous êtes aussi un peu ma famille en or. Et comme c'est en famille qu'on lave son linge sale, sachez que la dernière fois que j'ai joué à un jeu de questions-réponses avec Manon Mariani, elle est partie pile au moment où il y avait un camembert, où elle avait un camembert de plus que moi pour triompher. J'ai gagné, c'est terminé, B de bye. Cette fois, Manon, aucune contestation ne sera admise, d'autant que je fais une confiance absolue à Gérald Darnaud qui a conçu ce quiz entre deux passages dans sa salle de shoot préférée. Gérald Darnaud qui n'est pas en régie comme à son habitude entre 16h30 et 16h35, car Gérald est en train de déclarer sa flamme à la machine à café. Après des débuts chaotiques, voire carrément hostiles, Gérald a réussi à pardonner. De leur union naîtra un petit Marc, Marc de café. Ça fera plaisir à la belle famille, confiera Gérald. C'est moche le crack. Mais revenons donc au Zoom Zoom Test. La première réponse à ce quiz sera tout simplement le thème du quiz. Manon, Quentin, Cyril, vous êtes prêts? Top à la question.
C'est encore plus ringard qu'avec Mathieu.
Je suis créé en 1949, soit en l'an 4 avant JB, James Bond. Je suis un espion opérant pour le compte des États-Unis en pleine guerre froide. Je suis donc américain, mais mon patronyme Over Frenchy me vient de mes ancêtres qui ont fui l'Hexagone pour s'installer en Louisiane. 260 livres et quelques adaptations au cinéma plus tard. Je perce enfin sur le grand écran mes versions espion français dans l'un des
Nestor
alias.
Nestor Burma
dans l'un des alias, mais pas Abbé Chibrard, mais Lucien Bramard, je suis.
Ah bah, OSS 117.
Bonne réponse de Quentin Lee. Et oui.
C'est des personnages fictifs du coup.
C'était le thème du quiz. On va donc jouer avec OSS 117. La version originale signée Jean Bruce était bien un officier de l'Office of Strategic Services, plus exactement. Au-delà de Lucien Bramard, saurez-vous me donner le patronyme qui me sert de couverture dans Rio ne répond plus?
Noël Flantier.
Réponse A. Attendez la fin de la question.
Moi, j'avais pas c'est la bonne réponse.
Moins un.
Je pense que Alicia Bulot et deux mèches. Et deux mèches avec Quentin, lui.
Non, c'est moins un.
C'est moins un, Quentin.
Zéro.
Je le retire.
Il fout lui.
Non, c'est comme ça, Quentin.
C'est moins un, désolé. Et effectivement, c'est Noël Flantier, ce bon vieux Noël, comme dirait Cyril.
Voilà, cadeau de Noël.
Voilà. Pour votre parfaite connaissance,
Il y a des boules de
Armand
Noël,
les Zuniacs est le nom du N+1 d'OSS, un N+1 interprété par qui, d'ailleurs? Attention, réponse A, Claude Brossé. Réponse B, Pierre Belmar. Ou réponse C, Vladimir Yordanov.
B. Pierre Belmar.
C'est moi.
B. Ben... Manon, votre réponse?
C'est B, s'ils sont fans les deux de OSS 117.
Vous êtes sûr?
Réponse A.
Eh bien, personne n'a trouvé. C'était les trois. N+1, job particulièrement exposé, puisque ces trois interprètes nous ont malheureusement quittés. Comme quoi, la vie de bureau n'est pas exempte de danger, contrairement à ce que pensait Cyril lors de sa première affectation en tant que stagiaire adjoint au comité d'entreprise du FBI. Voilà. C'est comme ça que termine les stagiaires qui bourrent les imprimantes. Vous avez découvert il y a quelques semaines, à l'occasion de sa venue dans le Zoom Zoom Back de l'année 2012, la passion de Mathieu Noël pour Ludovic Bourse, oscarisé pour The Artist et pourvoyeur de fou rire pour Manon Mariani. Ludovic Bourse, donc, est le compositeur de l'univers musical des OSS, des bandes-sons qui ont la particularité de souligner chaque événement du film, comme dans cette bagarre d'OSS 117, le Caire ne répond plus. Voilà, une technique sonore qui a un nom bien particulier, mais lequel? Réponse A, le Chaplining.
Je sais plus ce qu'il raconte.
Réponse B, le Hitchcocking.
Quoi?
Ou réponse C, le Mickey Mousing.
B.
C.
Ah.
Ça ressemble à Mickey un peu, non?
Bonne réponse de Quentin, lui, le Mickey Mousing. Effectivement, la réponse C, c'est une synchronisation délibérée du son et de l'action. Il a été popularisé dans les premiers dessins animés qui utilisaient la musique comme une béquille et qui, ici, accentue le côté
spectacle. On en apprend, Olivier.
Le baston, le gosse surjoué et donc... parodique. Merci Olivier. Mais OSS, ce n'est pas que de la parodie.
Il fait son truc dans son coin.
Mais laissez-le, le pauvre Pierre.
Derrière la galéjade d'OSS, il y a parfois une réflexion, un propos. Oui. Écoutez plutôt cet extrait d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire.
Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Oh. Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ils dansent bien. Cependant, on nuance ce constat.
Ouais, Manon, Quentin, Cyril, cependant. Mais cependant quoi? Ils ne sont pas très travailleurs, ni très ponctuels. Réponse B, ils ne sont pas très soigneux, ni très responsables. Ou réponse C, ils ne s'habillent pas très bien et marchent pieds nus.
C.
Réponse B.
Réponse B, bonne réponse de Quentin Lhuy, encore une fois. Évidemment,
il doit avoir les réponses quand même.
Oui. Je l'assure.
Non, il ne triche pas. Évidemment, il s'agit d'une fiction. Personne n'a jamais dit ça dans la vraie vie. Et surtout pas dans cette équipe.
J'ai toujours rêvé de baiser en Afrique.
Arrêtez avec cette histoire.
Voilà Manon ce qui arrive quand on sort les propos de leur contexte. D'ailleurs,
c'est pas possible.
D'ailleurs, comme pour Manon, qui peut suspecter OSS de racisme quand on entend ceci ?
Hitler, je déteste ce type.
Et une réplique qui fait référence à un autre film, mais lequel ? Réponse A, Indiana Jones et la dernière croisade. Réponse B, Rabbi Jacob.
Wow.
Ou réponse C, Inglourious Basterds.
A, C.
Réponse A, et c'est Manon Mariani.
Yes. Premier point.
Bonne réponse de Manon Mariani, une des nombreuses références d'OSS 117 avec entre autres le magnifique et l'homme de Rio. Et enfin, pour terminer ce
point, on ne
terminera jamais ce truc.
Spécial.
C'est pas juste à 17h. Vous avez
c'est la dernière question.
Ah oui.
Quentin, ne soyez pas rageux, vous êtes en tête pour l'instant. Pour terminer ce quiz spécial Quentin, espion, il a déjà eu un moins 1, il aurait eu 3 points, pour l'instant il est à 2. Cyril, vous n'en avez aucun. Parmi les 3 répliques suivantes, écoutez bien l'intitulé de la question. Parmi les 3 répliques suivantes, laquelle ne figure dans aucun des films ? Réponse A. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes déjà, ils ont froid, des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Réponse B, c'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge. Réponse C, chacun des démons de l'ORS. Vous, c'est les nazis, moi, c'est les trapèzes.
B, c'est B.
Ouais, c'est B.
C'est B, ça vient d'un autre film, je pense.
Disons A.
Malheureusement, mauvaise réponse pour tout le monde, c'était... Aucune, car elles y figurent toutes.
Il est fourbe.
Ah, il y a un piège.
Il est fourbe.
Et c'est une victoire éclatante, je dois dire, de...
C'est quand Mathieu est
ça
que vous gagnez.
Non mais éclatante, il y a quand même 2-1-0 quoi. C'est pas extraordinaire.
Mais encore une fois, Quentin aurait pu avoir 3 points, il a perdu 1 point. Bravo Quentin.
Bon bref, merci Pierre, on vous retrouve en fin d'émission pour votre petit carnet qui je l'espère fera 1 minute, non pas 10 comme ce quiz. On est toujours avec vous, Olivier Mas, ex-agent de la DGSE, pour votre premier roman, Le Walk-in, paru à l'automne chez Flammarion. Olivier, dans ce livre, vous parlez d'un officier des renseignements syriens qui vient offrir ses services à la France pour faire chuter Bachar el-Assad. On est en 2015. Est-ce que c'est lors du roman où il y a quand même une part de réalité ?
Alors évidemment, l'intérêt d'un auteur de roman d'espionnage qui soit un ancien membre des services secrets, c'est qu'on va avoir normalement un roman qui est très réaliste. Donc c'est des choses que j'aurais pas pu écrire et que la DGSE ne m'aurait pas autorisé si j'avais fait ma vie de chef de poste de telle année à telle année, etc. Mais parce que c'est un roman d'espionnage, on peut dire... On peut dire beaucoup de choses et on peut raconter une histoire certes un petit peu romancée, mais tout ce qui est arrivé, mes personnages, il y a un petit peu de moi là-dedans. Tous ces personnages prennent une partie de ma propre personnalité, de ce qui m'est arrivé, de petites anecdotes. Des anecdotes sont arrivées à des collègues, donc oui, c'est très réaliste bien sûr.
Vous vous êtes confronté au régime al-Assad ?
Oui, c'était une des missions principales de la DGSE à cette époque-là, et justement aux exactions du régime, à son utilisation de l'armement chimique qu'on a essayé de prouver par A plus B, de manière scientifique. On a récupéré des obus non explosés avec des munitions chimiques, et ensuite on a fait beaucoup de choses pour essayer de précipiter la chute du régime.
Il y avait beaucoup de walk-in qui venaient de Syrie, des walk-in syriens pour donner des informations, ou est-ce qu'ils avaient peur au fond ?
Alors, il y avait des walk-in, on a eu des walk-in, on a aussi réussi à prendre contact avec des gens et à les recruter dans les forts de l'art, c'est-à-dire essayer de voir un peu leur environnement, essayer de voir quelles étaient les ficelles sur lesquelles on pouvait tirer, des leviers de recrutement. Et donc là, c'est l'officier de renseignement qui a fait son travail d'environnement et qui ensuite vient au contact. Et donc c'est encore plus beau parce que c'est pas le volontaire qui vient, là c'est l'officier traitant qui a fait son travail et qui arrive à recruter.
C'est à l'ex-agent de la DGSE que je pose la question. À quoi ressemblait une mission ? Est-ce que c'est comme dans les films ? On vous appelle, vous avez une tenue qui vous attend quelque part, avec une mallette, des faux papiers, et vous partez comme ça dans un avion, ou pas du tout ?
Non, c'est ça. Quand on travaille, par exemple, sous légende, souvent, on voit ça dans les films, ou en tout cas dans les missions impossibles, vous avez, voilà vos identités, votre papier, vous avez 10 minutes pour la prendre par cœur, et ensuite, vous jetez tout ça dans la cuvette des toilettes. Donc, évidemment, une vraie légende, il faut qu'on l'épouse, ça devient comme une seconde peau, et donc, on vit un an, d'abord, avec sa légende, on a des amitiés, qu'on crée des amitiés, des vraies fausses amitiés, sous ce faux nom, et ensuite, ensuite, au bout d'un an, eh bien, on part en mission. Donc du coup, c'est pas du tout appris en deux heures dans des enveloppes. Donc voilà, c'est long à faire une légende. Donc quand on tombe, quand l'agent tombe, c'est tout un travail de plusieurs années qui s'écroule.
Et justement, on parle des walk-in aujourd'hui. Comment ça se passe quand ils se font démasquer? Parce que je suppose que ça arrive.
Eh bien, tous les walk-in de l'histoire qu'on connaît maintenant, c'est tous des histoires terribles qui se sont mal terminées. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi à être indétectés, on les connaît pas. Et ils continuent à vivre, peut-être à travailler pour un service de renseignement, ou ils sont morts de la bonne mort dans leur lit. Mais tous les espions, les walk-in de la guerre froide dont on parle, tous ces gens-là, les Russes ont tous été exécutés. Penkovsky a été exécuté. Petrov, le français, Farwell, a été exécuté. Voilà. Donc c'est une fin terrible. Le walk-in, c'est un métier très compliqué et très difficile.
Olivier, une dernière question. Il en est où aujourd'hui le renseignement français? Comment il se situe dans cette grande lutte d'influence entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine? On est où aujourd'hui?
Ben en tout cas, on est un service qui est très respecté par ses partenaires, parce qu'il est performant. C'est un système intégré, c'est-à-dire que par la CIA, on a ces deux agences différentes. La CIA, c'est le renseignement humain, et la NSA, c'est le renseignement technique. Et on a fait le choix, la DGSE, d'avoir au sein d'un même organisme le technique et le humain, et tout ça, ça travaille. Donc c'est un bon rapport qui a été pris, la DGSE, à mon avis. Donc voilà, on est à notre place.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon Mariani, chaque jour, pour approfondir le sujet, vous racontez l'autre personne à suivre.
Et bah justement, je vous présente Guillaume Debailly, il a une quarantaine d'années, il est français et on le connaît surtout sous son nom de légende.
Vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Le personnage fictif Malotru, interprété par Mathieu Kassovitz dans la série iconique de Canal+, Le Bureau des Légendes. Malotru est un agent de la DGSE, spécialisé dans les opérations clandestines à l'étranger. Un personnage aux multiples facettes. On le découvre dans la première saison, diffusée pour la première fois il y a 10 ans. Oui, ça remonte. Il est de retour en France après avoir passé 6 ans en mission sous couverture à Damas. Une double vie qui l'a marqué, notamment parce qu'il est tombé amoureux, là-bas, d'une professeure de l'université, alors qu'il était sous couverture. En parallèle, il doit aussi former une nouvelle recrue du nom de Phénomène. Vous en avez parlé, Quentin, joué par Sarah Giraudot. On assiste à son recrutement, à son entraînement et le moment où elle va partir pour sa première mission. Ça permet de voir le fonctionnement de ces fameux agents et de la DGSE. Pour plus de réalisme, la série s'inspire de nombreux éléments réels des méthodes de fonctionnement des services secrets français. Éric Rochant, le showrunner et créateur de la série, est allé rencontrer plusieurs anciens agents du renseignement. Il a aussi pu visiter certains locaux, sans appareils photo et téléphone, évidemment. Au départ, il raconte que les membres de la DGSE étaient assez sceptiques. Ils avaient sûrement peur de l'image qu'on allait donner d'eux à la télévision française. Mais ils ont eu une bonne surprise. Le Bureau des Légendes a été massivement applaudi par les critiques et adoré des téléspectateurs. Sa recette sombre et réaliste en a fait une série loin de la caricature dans laquelle elle aurait pu tomber. Certains disent même qu'elle a participé à redorer l'image des services de renseignement français. D'ailleurs, depuis les débuts de la diffusion de la série, de plus en plus de jeunes auraient aussi candidaté. Olivier Mas, vous nous donnerez votre avis. En tout cas, pour ceux qui sont passés à côté, foncez regarder Le Bureau des Légendes. Perso, j'ai hâte aussi de découvrir la version US The Agency avec Michael Fassbender qui arrive bientôt en France.
Merci Manon. Olivier Mas, vous êtes d'accord, Le Bureau des Légendes, ça a changé quelque chose pour l'image, en tout cas l'image du service des renseignements?
Oui, le service est très content de l'image que ça a projeté du service. Il y a des agents aussi qui ont du mal à s'exprimer, à parler à leur famille, et parce que c'est gênant, parce qu'on peut pas tellement parler, on sait pas où mettre la limite. Et donc ils disaient, regardez la série du Bureau des Légendes, vous serez le métier que je fais. Donc non, tout le monde s'y est retrouvé.
Et à part l'image, sur le fond? Effectivement, Manon disait qu'il y a des gens qui avaient postulé.
Oui, c'est vrai. On a parlé en interne d'une génération BDL.
Ah ouais, carrément.
Et donc finalement, vaut mieux avoir des gens qui se présentent au concours en ayant vu Le Bureau des Légendes qu'en ayant vu James Bond. Donc il y a moins de décalage.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Il il est le Saint-Esprit de Zoom Zoom Zen, mais il est aussi mon ami depuis des années. Et croyez-moi, après quelques verres, Jésus et l'abbé Chibrard sont très très vite oubliés. Rebonjour Pierre Courade.
Bonjour Manon, je vous rappelle que je suis toujours André January, moi.
C'est vrai. C'est l'heure de votre petit carnet. Tout ce qu'on s'est dit dans l'émission résumé en une minute, c'est à vous.
Et aujourd'hui, le walking, un sujet proposé par notre programmatrice Florence Gimalac, qui, comme notre invité Olivier Mas, a bien baroudé, mais elle, c'était plutôt entre la Cochinchine et la Haute Volta à l'époque. Olivier Mas, lui, a connu des zones de tension en tant qu'agent de la DGSE, et il connaît bien le walking. Il s'agit d'une personne, généralement haut placée, qui décide spontanément de donner des informations importantes sur son pays à un état adverse. Il ne s'agit donc pas d'un agent double ou d'un agent retourné. Ce sont souvent des scientifiques, des politiques, des intellectuels, des chefs d'entreprise, en tout cas des personnes qui sont susceptibles de détenir des informations confidentielles et qui souhaitent en faire profiter d'autres puissances. Les raisons de trahir son gouvernement sont multiples, et pour Olivier Mas, ce n'est pas l'argent la principale motivation, ou pas seulement en tout cas. Ce sont des valeurs plus nobles que vous ne connaissez pas autour de cette table, sauf pour vous Olivier, l'honneur, le combat contre une idéologie, la liberté. Parfois c'est moins noble et la vengeance prend aussi le dessus. C'est pour cette raison que la vérification de la source est primordiale pour les services de renseignement qui reçoivent ces informations. 95 à 97% sont pipés. Il existe donc de faux walking qui cherchent à manipuler les agences de renseignement. Ici, on a bien failli se faire avoir par un agent infiltré de Nagui, mais on a réussi à le démasquer grâce à un subterfuge qui consistait à modifier subtilement une archive, et voilà Quentin, lui, publiquement désavoué par Nagui.
Tu me rendrais un grand service en ne venant pas dans la bande de journée.
Faites attention au walking qui nous entoure.
Il s'en mord les doigts.
Merci Pierre Courade. Alors, celui qui arrive, c'est pas mon préféré, hein, je le dis. D'ailleurs, j'aime aucun des humoristes de cette émission, mais il est beau, il est très bronzé, il a l'art et la manière de faire rire sur des sujets qui, parfois, me hantent la nuit. Et le hante aussi, lui, après des vacances pas méritées du tout, ça c'est sûr, il revient pour notre plus grand plaisir.
Bonjour tout le monde, je suis très content d'être de retour parmi vous. Voilà, je suis parti 2 semaines en vacances, voilà, il s'est passé plein de choses pendant mon absence. Jean-Marie Le Pen est mort, il y a eu un cessez-le-feu à Gaza. Je crois que j'ai un pouvoir. Non, j'ai le pouvoir de plus je kiffe, plus il y a la paix dans le monde. Prochaine fois qu'on va me dire le monde est part en couille, je vais dire t'inquiète, je pars 2 semaines à Mykonos, ça va se régler. Là, à peine je reviens, je vois Elon Musk qui fait un salut nazi. Je suis désolé Cyril, hein, mais va falloir que je reparte en vacances. Voilà, pour le bien de l'humanité. Olivier Mas, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors vous avez été pendant longtemps un espion français du Bureau des légendes, mais le grand public vous connaît car vous avez participé à l'émission Le Loup-Garou sur Canal+. Voilà. Apparemment, ils ont dû refaire une partie du casting parce que dans une première version de l'émission, Olivier n'avait pas compris que c'était un jeu et tuait les villageois pour de vrai. Vous avez exercé au Sahel, au Moyen-Orient, et vous en êtes sorti vivant. Bravo, vraiment bravo. Ouais. C'est fou de survivre dans des pays en guerre et se faire griller au direct au loup-garou par un gars qui s'appelle Dylan. Dylan, un mec qui a peur des chiens et qui pense que Sahel, c'est un resto marocain dans le 18e. Non, ils doivent être dégoûtés, le contre-espionnage libyen. Les gars, ils passent leur vie à traquer des infiltrés et là, ils apprennent que vous, un pro, vous faites griller par un mec qui s'appelle Dylan. Ouais, j'insiste sur Dylan parce que c'est un prénom à faire les anges, la télé-réalité. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû sauter après l'émission des loups-garous dans le contre-espionnage libyen. Ils devaient être là. Attendez, vous l'avez pas chopé lui, le gars qui se fait éliminer par des youtubeurs? Si vous vouliez casser le mythe du Bureau des légendes, c'est chose faite. La DGSE va recevoir plein de candidatures maintenant de youtubeurs, de mentalistes, de faux acteurs. Voilà, c'est ce qui se passe. Trêve de plaisanterie sur les loups-garous. Aujourd'hui, on parle des walk-ins. Voilà, les walk-ins, c'est des gens qui viennent livrer des informations à des pays. Voilà, chez nous, on appelle ça des poucaves, des balances. ou une ex, voilà, c'est ça. Ça doit mettre une certaine... Non, mais en vrai, ça doit mettre une certaine tension de savoir qu'à tout moment, il peut y avoir des agents double qui se présente pour vous livrer des informations. Ils sont là. Monsieur Mas, on a un étranger avec un paquet pour vous. Un walking? Non, un takeaway. Deliveroo, quoi. Vous racontez que vous avez eu affaire à des walking au début et que vous aviez du mal à savoir si c'était du lard ou du cochon, et je vous comprends totalement. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que du lard ni du cochon. Du coup, avec votre walking, vous savez pas s'il fallait le prendre au sérieux. Dylan, lui, il aurait su. Le problème avec les espions, c'est qu'on a des références hollywoodiennes. C'est nous, on a Tom Cruise, Daniel Craig, tout ça. Eux, ils roulent en Aston Martin. En France, nos espions, ils sont en Twingo. Et écrit avec un petit sticker, écrit bébé à bord, tu fais pas peur. Beaucoup de déceptions quand même pour les espions ou leurs familles. Je pense à ces enfants de 8 et 11 ans là qui ont découvert qu'ils étaient russes. Voilà, sur le retour à Moscou. Dur quand même, hein, parce que dans leur tête, ils étaient argentins. Voilà, tu passes de Messi à Medvedev, c'est chaud, quoi. Non, c'est vrai, tu passes du bœuf d'Argentine à la soupe de betterave, c'est un autre délire. Bref, espion en vrai, c'est pas facile. T'es coincé entre Hollywood et la vraie vie. Dans les films, ils sautent d'un avion en costard. En vrai, ils galèrent à payer des parkings avec un ticket déchiré. Mais au moins, ça nous fait des histoires à raconter. Et franchement, Olivier, entre nous, c'est déjà pas mal d'être resté vivant.
Ouais. Merci, merci Ahmed Sparrow. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Sauf si vous avez disparu d'ici là, si non. Olivier s'occupe de votre cas. Merci Olivier Mas d'être passé nous voir pour nous éclairer sur ce qu'est le walking. Je rappelle votre dernier livre, le walking, chez Flammarion.
Peut-être un dernier mot sur est-ce qu'on doit regarder les loups-garous ? Est-ce que vous êtes bon dedans ?
Manifestement non.
Je suis fait griller par Ahmed.
Demande à Dylan. Demande
à Dylan. Vous vous trouvez bon ?
J'aurais préféré rester plus longtemps, mais si j'avais été resté plus longtemps, la partie aurait été tournée court. Quoi. Il fallait quand même que les villageois trouvent au moins un loup-garou, sinon c'est moins marrant.
C'était une bonne expérience.
Excellent. Zoom Zoom Zen.